Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. On parle cinéma ce matin dans À propos, au lendemain de l'annonce des résultats des Golden Globes, avec une question: ces grandes cérémonies sont-elles encore incontournables? Mais avant ça, focus sur les voitures électrifiées, hybrides ou électriques, à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Auto. Nous sommes le jeudi 12 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le Salon de l'Auto ouvre ses portes ce samedi pour les particuliers. Un retour après deux éditions annulées, la faute à la crise sanitaire. Quand on parle automobile en 2023, il est bien souvent question de modèles électrifiés, propulsés par l'électricité ou dotés de moteurs hybrides. Alors ce Salon de l'Auto sera-t-il celui des autos électrifiées? C'est une question posée par Julien Bossler dans le Soir Éco de cette semaine. Il est passé en studio pour nous donner ses réponses. Bonjour Julien.
Bonjour Pierre.
Quand on se promène en rue, en ville, on croise de plus en plus de véhicules électriques. En tout cas, c'est mon impression. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est confirmé par des chiffres?
C'est la réalité. Si on regarde les chiffres d'immatriculation de voitures neuves produites par FEBIAC, la Fédération Automobile, effectivement, on voit qu'il y a une très belle progression des immatriculations de voitures électriques. En 2019, on en était à 8830 véhicules de ce genre-là. L'an dernier, on en était à 37619. Si on reporte tout ça sur l'ensemble des voitures immatriculées, on se rend compte qu'en fait, il y a eu 4 fois plus d'immatriculations en 3 ans de voitures électriques.
Ces chiffres sont en hausse. Est-ce qu'on sait si ces voitures électriques sont acquises par des particuliers ou plutôt par des sociétés? Autrement dit, qui achète ces véhicules?
Le moteur, c'est la voiture de société. Donc très clairement, c'est là que ça se passe. En 2022, 87% des voitures électriques ont été immatriculées par des entreprises ou des indépendants. Bon alors pourquoi? Alors là, clairement, il y a l'histoire de la carotte et du bâton. La carotte, elle est fiscale, hein, c'est toute la politique belge en matière de voitures de société. Le bâton, c'est qu'en 2026, on ne pourra plus profiter de la pleine déduction fiscale si on n'immatricule pas en tant que société une voiture électrique. Et donc en fait, les sociétés, là, vu les délais de livraison actuellement qui sont assez longs pour se fournir une voiture, eh bien sont en train de commander massivement des voitures électriques.
Ils commandent déjà pour anticiper le changement de législation. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce si maigre succès des véhicules électriques auprès des particuliers? C'est une question d'habitude, c'est une question de prix, c'est une question d'infrastructure?
Oui, alors effectivement, il n'y a que 13% des voitures électriques immatriculées l'an dernier qui l'ont été par des particuliers, et le frein numéro 1, c'est clairement le prix. Donc il faut compter environ 10 000 à 20 000 euros de supplément pour une voiture électrique par rapport à son équivalent thermique. Bon, c'est quand même un sacré budget, et j'ai pas à vous expliquer qu'on est dans un contexte économique un petit peu compliqué. Donc voilà, on est dans un pays où quand on prend les voitures d'occasion et les voitures neuves, eh bien le Belge consacre environ en moyenne 20 000 euros pour sa voiture. Donc le frein, il est économique.
Le frein principal, c'est le prix. Il y en a d'autres, des freins à cette acquisition de véhicules électriques par des particuliers?
Hélas, oui. En fait, tout le sel de la voiture électrique, c'est de pouvoir la recharger à la maison quand on est un particulier. Pour ça, il faut un garage ou un emplacement de voiture pour y installer une borne de recharge. Bon, tout le monde n'a pas le box ou l'emplacement dans son immeuble. Donc là, évidemment, ça coince. À défaut, on pourrait se dire on va se reporter sur le réseau de bornes de recharge électrique sur la voie publique. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est un moyen de recharge qui est vraiment un moyen d'appoint. Et en plus de ça, ce réseau, il n'est pas encore pleinement développé aujourd'hui.
Cela veut-il dire qu'on risque de basculer vers un nouveau rapport à l'automobile et donc de passer d'une voiture dont on est propriétaire à une voiture que l'on loue?
Ça, c'est la réponse des marques, des constructeurs, des concessionnaires. Effectivement, comme la pilule financière est un petit peu compliquée à avaler, l'idée, ce serait de pousser les particuliers vers le private lease, qui est en fait l'équivalent du leasing, à peu de choses près, pour les entreprises, mais appliqué aux particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on louerait sa voiture, on paierait pour l'usage et non plus pour la possession d'un véhicule. Alors, malheureusement, c'est un petit peu contre nature, parce que le Belge adore posséder sa propre voiture.
Parmi les arguments des anti-voitures électriques, on a très souvent mis en avant la question de l'autonomie, des capacités de la batterie, du nombre de kilomètres qu'on va être capable de faire avec une recharge. C'est encore encore un argument aujourd'hui, en 2023, alors que la technologie a évolué ?
Ce n'est plus vraiment un argument recevable pour la majorité des conducteurs, puisqu'une voiture électrique aujourd'hui, elle fait facilement entre 200 et 300 km avant de rendre l'âme. Il faut savoir qu'en moyenne, les Belges parcourent 60 km par jour. Je ne sais pas vous, mais moi je connais quand même assez peu de gens qui effectuent plus de 200 ou 300 km
tous les jours,
voilà, donc c'est quand même énorme. Donc non, cet argument ne tient plus vraiment.
On a dressé un tableau un peu sombre, là, du véhicule électrique. On imagine qu'il y a aussi de nombreux avantages à rouler avec ce type de véhicule.
Bien entendu, donc la première chose, c'est le plaisir de conduire. Hein. Une voiture électrique, c'est très fluide, il n'y a pas de bruit, du moins jusqu'à 50 km à l'heure. On a la pleine puissance directement, c'est vraiment un confort très particulier. Le confort aussi de pouvoir recharger chez soi et d'avoir une voiture qui est pleinement opérationnelle chaque matin. Et puis bon, bah évidemment, s'il y a le développement des voitures électriques aujourd'hui, c'est pour des raisons écologiques. Et actuellement, on n'a pas encore fait mieux par rapport aux émissions directes et locales, bien entendu.
Et psychologiquement, ça joue aussi de se dire qu'on est en train de conduire sans émettre de CO2.
Oui. D'ailleurs, une petite partie du public qui bascule vers la voiture électrique, eh bien justement, c'est un public qui a la fibre verte, qui a une conscience de ses émissions polluantes et qui se dirige vers cette solution-là.
Pour terminer, pour certains, la voiture électrique, c'est une fausse alternative parce que ça reste une voiture.
Effectivement. Alors, la voiture électrique, elle fait moins de bruit, hein, jusqu'à 50 km à l'heure. Elle n'émet pas de pollution, en tout cas de manière vraiment locale. Mais évidemment, tout dépend du mode de production d'électricité. Or, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas à 100% de renouvelables en Belgique. Donc là, il y a toute la question en fait de la production électrique en Belgique. Est-elle verte ou non ? Et puis, si vous roulez en voiture électrique, vous n'allez pas résoudre les problèmes d'embouteillage. Vous n'allez pas non plus réduire la place de la voiture dans l'espace public, d'autant qu'il y a le développement des bornes de recharge publiques. Donc, en fait, d'un point de vue collectif, la meilleure alternative à la voiture thermique, c'est probablement pas la voiture électrique, mais ce sont les transports en commun, le vélo et la marche, bien sûr.
Merci beaucoup, Julien. La 80e cérémonie des Golden Globes a récompensé les meilleurs films et séries dans la nuit de mardi à mercredi. Les Golden Globes, c'est l'événement qui lance la saison des cérémonies du cinéma, celui qui historiquement donne le ton et les grandes tendances des films récompensés. Parmi les lauréats, Steven Spielberg, Cate Blanchett ou Colin Farrell, mais pas de traces des succès commerciaux de l'année comme Avatar 2 ou Top Gun 2. On s'est donc posé une question, ces grands messes du cinéma sont-elles démodées, font-elles encore autorité? On a interrogé Gaël Moury, spécialiste cinéma. Bonjour Gaël.
Bonjour Pierre.
Que faut-il penser, en un mot, du palmarès de ces Golden Globes ?
Alors, un petit peu décevant. En fait, on est face à une cérémonie dont on se demandait, enfin le grand enjeu cette année, c'était de savoir si les Golden Globes allaient réussir à passer outre le tollé de l'an dernier, avec pas de diffusion télévisée, parce que l'association des journalistes étrangers basée à Hollywood, qui remet ses prix, était accusé de sexisme, de manque de diversité, d'entre-soi. Donc l'enjeu, c'était vraiment de savoir si cette année, ils allaient réussir à passer outre ça et proposer une cérémonie qui allait simplement intéresser les gens et les professionnels.
Est-ce que c'est le cas ? On remarque par exemple avec les acteurs et les actrices qui se sont présentés, qui étaient là pendant la cérémonie. Il y en a certains qui sont venus, mais peut-être pas les plus représentatifs du cinéma d'aujourd'hui.
Alors exactement. En fait, il y a quand même quelques grosses stars qui sont venues. Brad Pitt était là, James Cameron était là, Spielberg, qui est un des grands gagnants, était là lui aussi. Mais pas de Cate Blanchett, pas de Kevin Costner, pas de Zendaya, qui est un peu l'idole de la nouvelle génération. C'est trois personnes qui ont eu des prix, mais qui ne sont pas venues les chercher. Alors donc on se dit que une partie peut-être de l'industrie a décidé de faire amende honorable, mais que tout le monde, bon, peut-être pour d'autres contingents, on ne sait pas exactement pourquoi ils ne sont pas venus, mais tout le monde n'est pas venu. Ça n'a pas été la grande fête que c'est souvent, parce qu'il y a souvent des grosses fêtes justement pour les gagnants après ces cérémonies. Et cette année, la plupart des studios ont annulé ces after parties un peu célèbre. Donc avant, les Golden Globes, c'était vraiment un temps fort. On pouvait se dire que si on repartait avec trois Golden Globes, on était presque assuré d'avoir un Oscar et de voir son film avoir une carrière encore plus belle que ce qu'elle n'avait déjà été. Mais maintenant, on est vraiment dans une situation entre deux. On se dit que l'association qui remet ses prix a fait des efforts, a accueilli des nouveaux membres qui ne sont pas membres préfectifs, mais qui permettent d'avoir plus de diversité. mais certains dans le milieu disent que bon, finalement c'est peut-être un peu de poudre aux yeux, donc il faut attendre de voir un peu, on peut pas dire d'une année à l'autre s'il y a un vrai changement. On a l'impression qu'il commence à y avoir un changement, qu'il y a en tout cas une remise en question, mais on a un peu un goût de trop peu. Enfin, c'est pas une cérémonie où il s'est passé grand chose finalement, peut-être aussi parce que les films étaient moins nombreux, moins flamboyants cette année. Donc voilà, un peu bilan en demi-teinte, je dirais.
Ça, c'est une réflexion qui est propre au Golden Globe pour tout ce qu'on vient d'expliquer, ou ça peut s'appliquer à d'autres cérémonies, à d'autres festivals, où on se dit peut-être que aujourd'hui, les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs et les productrices n'attendent plus forcément les cérémonies et se disent je fais mon cavalier seul, de toute façon, il y a des gens qui me regardent quand même, peu importe que j'ai reçu un prix ou pas.
Il y a un peu des deux. En fait, les Golden Globes, ça a été clairement remis en cause, mais c'est pas les seuls. Les Oscars, c'est la même chose. On a eu toute cette polémique Oscar So White parce qu'on notait le fait qu'il y avait beaucoup d'acteurs afro-américains qui étaient représentés dans certains films, mais qui n'étaient pas primés, en fait. Et donc, il y a eu aussi une remise en cause. Peut-être qu'on n'a plus cette hégémonie. On remet en cause les cérémonies comme on remet en cause la société et notre mode de fonctionnement en général. Après, ça reste quand même important parce que quand un film a un Oscar, c'est écrit sur l'affiche, c'est mis en avant. C'est parfois un peu prescripteur pour les gens quand ils ne savent pas exactement quoi aller voir au cinéma. Ils se disent peut-être, ce film a eu 10 Oscars, peut-être que c'est le film de l'année.
Ça doit forcément être bien, je vais quand même aller voir.
Voilà, ça complète un peu. Bon, après, on remarque aussi que des films comme Avatar et Top Gun, qui sont quand même les films les plus vus, n'ont pas été distingués dans cette cérémonie alors qu'ils étaient nominés. Donc, c'est peut-être pas tout à fait en adéquation avec ce que le public va voir, mais ça c'est pas tout à fait neuf non plus. Les événements perdent peut-être parfois un peu d'importance, mais restent quand même des marqueurs sur l'année cinéma. C'est par exemple, même pour un nouveau venu, entre guillemets, comme Netflix, aller en festival, présenter ses films d'abord à Venise qui a accepté de les accueillir, et puis à Cannes, mais hors compétition toujours parce que le système français est différent. C'est important. Cette année encore, il y avait 5 ou 6 films à Netflix à Venise, je suis plus sûre, mais c'était important pour eux parce que ça reste un tapis rouge, un temps fort, des professionnels, parce qu'un festival, c'est pas simplement le tapis rouge, c'est justement des rencontres de professionnels, un marché. Donc c'est encore des événements qui sont importants. Il faut voir un peu comment les choses vont évoluer. On peut pas dire aujourd'hui les Golden Globes, ça sert plus à rien. Ce serait un peu présomptueux de ma part de dire ça ne sert plus à rien. Si, ça sert sans doute encore à quelque chose, mais c'est plus le moment de fête et le moment de lancement de l'année des prix comme ça l'était avant, en fait.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.